que je suis une femme de rituel? À l'âge que j'ai, je ne sais plus. J'ai 48 ans. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup plus maniaque. Et puis la vie m'a appris, entre autres, que moins on est maniaque quand même, mieux on se porte et surtout plus on écrit. Parce que s'il faut commencer à avoir son thé préféré, son stylo préféré, sa chambre, etc. pour écrire, on se crée des contraintes dans un univers où il y en a déjà beaucoup.
Le grand atelier de Marie Darieusec.
Donc en fait, je peux écrire partout et je peux boire n'importe quel thé en fait.
Sur France Inter.
De Marie Darieusec, on a souvent l'image d'une romancière féministe, mais cette image va peut-être finir par l'énerver. Si depuis Truisme, la voix principale dans ses livres est souvent féminine, c'est qu'elle est une femme, mais son souci premier est plutôt d'écrire sur l'humain. On trouve aussi d'ailleurs dans ses livres d'autres récurrences, les fantômes, les spectres et même les animaux. Bienvenue dans le grand atelier de Marie Darieusec, 2 heures pour mieux la connaître, connaître ses projets, 2 heures pour découvrir les artistes qui l'intéressent et la nourrissent. Bonjour Madame la romancière.
Bonjour Vincent Josse.
Un romancier que vous aimez, Hervé Guibert, mort au début des années 90, l'auteur entre autres de « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », Hervé Guibert écrivait « C'est quand j'écris que je me sens le plus vivant. Les mots sont beaux, les mots sont justes, les mots sont victorieux. » Est-ce que c'est une formule qui vous parle ?
Il faudrait que les mots soient victorieux, mais les mots justes, pas les autres justement. J'ai de plus en plus l'impression que la littérature, que l'écriture doit lutter contre un flux de mots injustes, injustes à tous les sens du terme. Je pense à Trump, je pense au tweet de Trump, mais ça c'est l'exemple maximum en quelque sorte. Mais il y a tout un langage qui est faux comme ça. Et la littérature est décidément dans son rôle quand elle cherche à dire la vérité en fait.
Comme si la littérature avait un rôle de combat ?
Moi, j'ai toujours perçu la littérature comme un combat, mais aussi comme comme un moment de paix. Mais peut-être que la paix est justement une victoire dans un monde de combat. Donc la littérature creuse cet espace paisible quand même.
Je pense à votre héroïne, l'héroïne de votre dernier roman, Notre vie dans les forêts. On est dans un monde futuriste, dans un monde sombre, dans un monde totalitaire. Et votre personnage tente d'échapper à ce monde. Elle est réfugiée dans la forêt et elle écrit. Elle a besoin absolument d'écrire, de témoigner, comme un dernier geste de combat précisément et un dernier geste d'humanité.
Oui, c'est l'histoire d'une fuite et d'une résistance. C'est curieux parce que j'ai écrit ce livre dans un état de nerfs en fait. C'était peu de temps après l'élection de Trump, justement, et puis on était en train de subir la campagne électorale en France, et j'étais comme beaucoup de gens en France, je crois, et dans le monde d'ailleurs, dans un état de nervosité croissante, dans un état d'irrationalité aussi, de rage, d'impatience, d'essoufflement aussi. Et le livre est venu comme ça, en réaction. Bien sûr, il ne parle pas de tout ça, mais il en parle à sa façon, je crois. À chercher une forêt, oui. Ou une clairière, peut-être.
Alors, vous êtes à un moment où la promotion est presque terminée. J'imagine que vous vous plongez de plus en plus dans le projet qui va arriver. D'ailleurs, on ira dans quelques instants chez vous, voir où vous en êtes de ce projet et de ce roman à venir. Mais on va écouter d'abord Camélia Jordana, parce qu'il paraît que vous l'aimez beaucoup.
Ah, j'aime beaucoup c'est ses chansons, ses textes, sa voix, son énergie.
Calamity Jane, ça vous va ?
Excellent.
De vallées, de prairies, de rivières et la joie des plaines, la chance bat des veines. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne et des fantômes à la pelle. J'ai dévalé tout le monde, mes bottes foulées la poussière. Les bonheurs et les peines. J'ai bravé sans danger, traversé les terres chères aux Cheyennes. J'en ai déçu, déçu ou même. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. Derrière moi, abandonné mon cœur au désert, soumis mon corps aux tempêtes. J'ai misé sur demain, j'ai flambé mes dollars au poker. J'ai tout brûlé, mes amulettes. J'en ai pisté des canailles, des terreurs, la nuit à cheval, sous la chaleur sans éventail. J'ai croisé des prêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme, et un héros sans défaut, sans faille, que j'aime. Et la joie des plaines, la chance, la veine. Si le ciel te faisait le cadeau rêvé d'une vie nouvelle, sans hésiter, je revivrais la mienne.
C'est la radio.
Ouais, cinquième dans l'ascenseur.
Je crois que j'ai changé de bureau. C'est pas la même table.
Ah.
J'avais un bureau encore plus petit et je me suis dit que j'exagérais. J'avais un bureau qui était une tablette, en fait, en verre, parce que plus le bureau est petit, moins il y a de choses dessus, moins il y a de distractions dessus, et seul l'ordinateur y tient. Et je me suis dit que c'était un peu austère, quand même, alors j'ai acheté une table légèrement plus grande. Voilà.
On croirait une chambre, non pas d'étudiante, mais de lycéenne.
On croirait une chambre de nonne, oui.
Une cellule.
Alors, l'espace fait 8 mètres carrés, oui, ça c'est vrai. Je me rappelle qu'à Louis-le-Grand, à l'internat, on n'était admis que les garçons, mais je leur rendais parfois visite. C'était 8 mètres carrés, la chambre, effectivement.
Ça ne vous a pas empêché de rentrer à Normale Sup?
Mais non, juste parce que j'ai travaillé.
Il y a un livre posé sur votre bureau qui n'est pas de vous,
oui,
qui est un livre des éditions de Minuit de Robert Pinget qui s'intitule Dunaire.
Oui.
Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il provoque en vous?
Ah bah, le titre, Dunaire. D'abord, c'est un livre formidable. Pinget, on le lit jamais assez.
Rien. Que le souvenir de ce qu'on a aimé. Par insouciance, légèreté, jeunesse, tout à reprendre. Vieille formule, vieux filon. Cette table, cette plume, ce papier, une description. Mais on ne décrit que ce qu'on ne voit pas. Conditions requises, insouciance, légèreté, jeunesse. Même le souvenir se dérobe.
Dunaire, je m'assois devant ce livre, ce petit livre comme ça. Et il me dit, allez, Dunaire! Arrête de te plaindre, travaille, Dunaire. Et Dunaire est aussi une phrase que... En fait, quand j'étais psychanalyste, c'était une phrase qui parfois me venait et que je ne disais pas la plupart du temps à mes patients, sauf pour les faire rire parfois. Et la psy que je mets en scène dans mon dernier roman, Notre vie dans les forêts, dit beaucoup Dunaire. Voilà, Dunaire. C'est un livre très nerveux aussi.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est pas simplement un conseil ou un ordre ou un impératif que vous donnez le matin pour écrire. C'est aussi, dans votre dernier livre, quelque chose d'assez manifeste, une écriture tendue, nerveuse, rythmée.
Ce sont des voix qui parlent, des monologues très serrés. D'ailleurs, ça se dit très bien, ça se lit très bien. J'en ai fait l'expérience au Festival de Manosque, qui est toujours très agréable. Bonjour. Je vais vous lire un passage de Notre vie dans les forêts. Je ne vais pas commencer exactement au début, juste quelques pages après le début. La planète est petite. On s'en est aperçu rapidement. Je veux dire, depuis les voyages de Christophe Colomb et Magellan et Cook et Bim Bam Boum. Colomb, Magellan et Cook étaient des explorateurs. Et depuis qu'on a plongé dans les abysses, et la Lune et Mars et les satellites de Jupiter, et bientôt les planètes habitables, on n'a plus tellement où se cacher nulle part sur la Terre. C'est une évidence.
Vous diriez que chacun de vos livres, depuis Truisme, Marie Darrieussecq, est un livre au style radicalement différent ?
Disons que chacun de mes livres appelle sa propre forme. Chacun de mes livres crée sa propre façon d'être écrit, je ne peux pas le dire autrement. Chacun de mes livres appelle son style, voilà. Après, j'ai des tendances lourdes, je parle toujours des mêmes choses, je crois. Mais les univers que déploie chaque livre, au fond, redisent sans arrêt la même chose, je crois, mais en l'encerclant de tas de côtés, comme en le prenant de tas de façons différentes. Ma vie ne suffira pas pour arriver à explorer toutes ces façons de le dire, je crois. Ouais.
Moi, je dirais aussi que le fil dans l'œuvre, parce qu'on peut parler d'œuvre maintenant, de Marie Darrieussecq, c'est ces femmes qui tentent de se débattre.
Oui, ce sont des femmes très obstinées, qui font tout ce qu'elles peuvent, mais aussi au sens où Madame Bovary faisait tout ce qu'elle pouvait. On la croit souvent passive ou uniquement rêveuse.
Bientôt le mariage est conclu, mais pour la jeune femme, élevée au couvent et nourrie de lectures romantiques, la désillusion est amère. De tempérament romanesque, Emma aurait aimé se marier à minuit, sous les étoiles, mais son père, un riche fermier, en a décidé autrement. Après une cérémonie champêtre, Emma s'installe dans la maison de Charles, dans le petit village de Tostes.
Mais mes personnages sont très souvent des femmes au foyer ou oisives, ou la princesse de Clèves, par exemple, qui était aussi une reine du rien faire. Et tous ces personnages tendent à un autre monde, mais ce sont des femmes qui se débattent, oui, qui se laissent pas faire, chacune avec leurs moyens. Elles me sont très sympathiques.
Vous avez besoin au départ, comme postulat, d'avoir un personnage sympathique ou qui vous est sympathique ?
Non, mes personnages sont toujours moi si je n'avais pas écrit. Voilà. Qu'est-ce que je serais devenue ? Comment j'aurais été ? J'écris depuis tellement longtemps, c'est tellement ma colonne vertébrale que si on enlève ça, il faudrait déraciner beaucoup de choses, alors il resterait quelqu'un, moi qui n'écrirais pas. Alors, parfois je rencontre des lecteurs ou des lectrices comme ça, des gens qui veulent absolument écrire et qui écrivent, mais qui ne sont pas publiés. Alors là, moi, je pense qu'il y aurait eu une possibilité de folie, vraiment, enfin de très très grave mélancolie.
Vous avez échappé à la folie en écrivant ?
C'est dit un peu dramatiquement, mais franchement, je pense qu'en tout cas, j'ai échappé à la dépression très grave, à la dépression vraiment qui vous empêche de vivre. Je n'avais pas envie de vivre si j'écrivais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, je ne sais pas si c'est un gage de qualité ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Cette espèce de maladie qu'on est plusieurs à avoir, qui fait que ce qu'on veut faire le matin qu'on se réveille, c'est écrire, il n'y a pas de question, c'est ça. Mais c'est comme respirer l'air ou boire de l'eau, enfin, j'ai pas le choix. Alors ça me tient. Et c'est pour ça que si j'avais pas été publiée, je serais vraiment folle dingue. C'est vrai.
Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Absente, c'est comme ça, écrit tout le temps, c'est-à-dire c'est pas seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, dont on est complètement la proie, la victime. Enfin, c'est assez horrible, faut dire. Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout.
Le grand atelier de Marie Darrieussecq sur France Inter.
On est assis sur un lit. Il me semble qu'il y a 5 ans, c'était un divan de psychanalyste.
Est-ce que même il y a 5 ans, ça n'était pas une sorte de long fauteuil en cuir noir ?
Oui.
Oui, voilà. Oui, oui, mon dernier patient a terminé il y a quelques temps et je n'en reprends plus. C'est très ambivalent pour moi. J'ai adoré, absolument adoré faire ça. C'est très addictif d'ailleurs. C'est extrêmement contraignant aussi. C'est une grosse responsabilité. C'est un métier qui exige d'être très sédentaire en fait. Le minimum qu'on demande à son psy, c'est d'être là. En fait, c'est ça qu'on demande à son psy. C'est d'être là. Et j'arrivais à un point de contradiction où je regrettais certains voyages. Enfin, ça devenait un petit peu sacrificiel. Alors ça, c'est très très mauvais. Quand il faut renoncer à trop de choses pour, en l'occurrence, être psy. Donc je fais une longue pause, je crois. C'est une drôle d'idée, hein, de vouloir être psy. C'est une très drôle d'idée. J'ai toujours pas totalement analysé ce désir-là. Je sais ce que je dois à la psychanalyse. Elle m'a, entre autres, mine de rien, permis d'être publiée. C'est-à-dire de ne pas devenir complètement folle. Parce que mes romans, avant, étaient trop névrosés, trop tournés vers moi. Et la psychanalyse, on croit toujours que c'est une activité narcissique, qui ferme. Pas du tout. Ça m'a débarrassée de moi. Et ça a débarrassé mes livres de la partie de moi qui les encombrait, disons. En fait, ça rend libre, tout simplement. Et ça, c'est, surtout dans le monde actuel, c'est inestimable. Et j'ai contribué à rendre certaines personnes qui sont venues me voir plus libres.
Marie Dariussecq, quand je vous ai demandé de faire un grand atelier avec vous, vous m'avez dit on va attendre un peu la promotion du livre que je viens d'écrire et qui est sorti à la fin du mois d'août. Et puis, pourquoi pas venir? Parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à démêler un sujet.
Ouais.
Où en êtes-vous?
Alors, ça fait à peu près 4 ans, mais peut-être plus, que je bataille avec ce qui me semble être le grand événement contemporain, qui est la migration du sud vers le nord. Je dis le Sud en englobant, bien sûr, la Syrie et l'Afghanistan, enfin, toutes ces zones maltraitées. Il faut absolument que j'écrive un roman là-dessus. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Voilà, il y a des moments où on peut pas faire autre chose que ça.
Votre sujet, c'est ça?
Oui. Et déjà, le mot même me pose question, c'est-à-dire les migrants. Alors, je suis pas la seule à discuter ce mot, mais moi, quand on discute un mot, ça me passionne.
Réfugiés, migrants. Vous en avez tout là-dessus, sur cette question?
Exilés, je pense que c'est ça, ils sont exilés. Et puis migrants, c'est un participe présent, donc ils n'arrivent jamais alors, ils ne sont jamais migrés en quelque sorte. Ce sont essentiellement des fugitifs, des voyageurs, et il y a des migrants de toutes sortes. Et alors ça fait des années que j'accumule à la fois des coupures de presse et puis des entretiens que je vais faire dans divers pays, ou à Paris, ou à Calais. Je vais vous montrer le dossier.
Regardons le concret d'un écrivain.
Voilà, tous ces papiers, ce sont des gens. Alors ça, c'est l'Énéide. Hein, parce que ça, c'est quoi?
Un extrait de l'Énéide, Virgile et les migrants.
Ça, c'est... C'est un papier qu'on m'a donné sur une ONG au Niger. Un papier de l'administration nigériane. Bon, j'ai toutes sortes de documents. Alors ça, c'est que le Niger, mais j'ai le Cameroun, j'ai des dossiers comme ça.
Donc vous collectez des paroles et des écrits.
Des documents, j'ai aussi des photos, évidemment, des masses de photos. Donc au Niger, j'ai eu la chance d'aller au Niger, invité par l'Institut français, comme ça se fait souvent, il y a quoi, 3 ans. Et moi, j'avais une seule idée en tête, c'est que à l'époque, le Niger était la plaque tournante de la migration. Maintenant, c'est évidemment davantage la Libye. Mais Kadhafi était tombé peu de temps avant, et c'était au Niger que la Libye faisait encore ce sale boulot, hein, mais de refouler les gens qui essayaient de passer, et les renvoyer où? Au Niger.
Ces migrants africains rêvaient de travail, de liberté. Leur odyssée a fini dans cette prison de Tripoli. Ils fuyaient la misère, la guerre civile ou la dictature, et ont passé des semaines, des mois dans le désert, maltraités par les passeurs. La plupart comptaient embarquer pour l'Europe.
Et au Niger, en particulier à Niamey, se trouvaient des Ghanéens, des Libériens, des Sierra Leonais, des Guinéens, des Camerounais, des Ivoiriens, des Congolais. Tous ces gens du golfe de Guinée qui n'ont absolument rien à voir avec le Sahara, mais rien, qui ne savent pas plus que vous ou moi vivre dans le désert, enfin, ou dans le sable, ou à Niamey, qui est une ville très très dure et très pauvre, et qui n'ont ni les moyens de refaire la traversée du Sahara et d'affronter la mer, ni les moyens de rentrer dans leur pays d'origine de l'ouest de l'Afrique. Alors là, c'est Aziz. Alors Aziz, oui, Aziz, il était... Alors ça, c'est un entretien extraordinaire, parce qu'il est drôle. Aziz est d'une famille relativement bourgeoise de Niamey. Lui, il voulait faire de l'argent en Libye. Il savait que là-bas, on pouvait gagner 10 fois, 100... 30 fois un salaire nigérien. Donc il me raconte ces trois traversées du Sahara en clandestin, dont une fois extraordinaire. C'est un grand gaillard qui, à l'époque de l'entretien, devait avoir 25 ans. C'est un type qui doit faire 1m90. Et la troisième fois, il est quand même passé entièrement voilé, en femme. En vieille femme, tremblotante, parkinsonienne. Et ça a marché. À l'avant de la Jeep, carrément. Bon, et ces trois traversées du désert sont très cocasses.
À la fois romanesque et cinématographique.
Oui, alors le cinéma, j'y suis pas encore, mais c'est tout l'inverse de ces libériens dont je vous parlais. Alors, est-ce que je les ai là? Bénédicte et Patricia, oui. Alors, eux, c'est la détresse absolue. Enfin, je veux dire, ils ont perdu leur bébé. Enfin, c'est l'horreur, quoi. L'horreur, la déshydratation dans le désert. Enfin, c'est affreux, quoi. Donc, il y a toutes sortes de gens. Aziz était en pleine forme. Il avait réellement fait des sous. Et il avait juré à sa tante, qui lui avait donné un petit pécule pour pouvoir faire la traversée, il lui avait juré qu'il prendrait pas la mer, comme il m'a dit. Alors que Bénédicte et Patricia, par exemple, les Libériens, ils auraient tellement aimé passer en Europe. Ils savent que là, en Afrique, il n'y a aucun moyen quoi, pour eux. J'ai rencontré pas mal de gens aussi qui sont arrivés au bord de la Méditerranée et qui ont juste eu peur de la mer et qui ont préféré rentrer. Donc il y a toutes sortes de migrants. C'est ça qui me frappe. Comment faire un roman? Tout mon début de roman, je l'ai. J'ai 60 pages. Ça fait 21 ans que je suis publiée. Je sais qu'elles sont bonnes. Je le sais. Au bout de 60 pages, il faut que j'arrête en quelque sorte cette image, cette figure du migrant, que je l'incarne. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Je sais que la seule solution, c'est de singulariser tellement un personnage qui va en devenir universel. De raconter tellement précisément l'histoire d'une personne migrante, qu'il ou elle, c'est un garçon en l'occurrence, va pouvoir représenter tous les autres. Mais j'y arrive pas pour l'instant, je ne sais pas le faire.
Peut-être que vous avez peur.
Ah oui, j'ai peur, absolument. Oui, j'ai peur. Je voudrais aussi aider, tout bêtement, je sais pas. Je voudrais aider un peu des migrants. J'ai un peu aidé à Porte de la Chapelle. Bon, voilà, mais voilà, comme une citoyenne. Comme écrivaine, qu'est-ce que je peux faire?
Vous dites quand même que vous voulez aider.
Alors, les migrants, je sais pas si je peux les aider. Je voudrais aider les gens qui vont accueillir les migrants, nous. Je voudrais nous aider. Parce que c'est pas facile. Parce que ça nous fait peur. Et franchement, on n'a pas le choix. La planète est en train de se déséquilibrer et c'est pas à coup de murs ou de frontières qu'on va arrêter ça. Même les murs et les frontières vont déclencher la violence et les conflits. Donc il faut fluidifier, au contraire. Il faut un ou des romans, je ne suis pas la seule à travailler sur les migrants, pour fluidifier, pour enlever un peu de peur. Peut-être tout simplement pour la dire, alors on pourra mieux la contenir. C'est pas facile hein, d'accueillir les migrants. Il faut pas être béni oui là-dessus. Enfin, ce sont des populations qui sont pas exactement comme nous. Donc il va falloir nous aussi devenir comme eux. Mais à quel prix? Sur quoi on va pas lâcher? Waouh! Alors là, ça devient de la politique. Mais moi, j'écris aussi des livres politiques. Truisme était un livre très politique, mon premier roman. Donc tout ça, je veille au grain, disons, mais c'est parce que j'ai la chance d'avoir la parole, voilà. Alors quand on a la parole, il faut être responsable de sa parole.
On peut voir des choses de ces 60 premières pages ou pas?
Oui, bien sûr, oui. Alors il faut que j'ouvre mon ordinateur.
Elles sont en train de devenir cultes.
Peut-être que mon erreur, et je suis en train de me dire ça, c'est que pour l'instant, il est à la troisième personne. En fait, peut-être si je le passe tout simplement, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme en fait, à la première personne, ça va tout changer. Et alors, il ne suffit pas de faire chercher et remplacer, hein. Ça change absolument toute la phrase, et ça changera même probablement le récit lui-même. Il faut que j'essaye. Là, je n'y suis pas encore. Alors là, oui, c'est un petit fichier avec des... J'ai collecté toutes sortes de photos, enfin...
Donc on voit ce qu'on appelle des migrants, encore une fois, sur un bateau.
Pantelleria, sauvé par des gardes-côtes. Après, j'ai une carte d'émigration, mais elle date déjà. Ça devait être septembre.
Les principales routes de l'immigration clandestine.
Voilà. Bon, j'ai accumulé des documents, hein, tout simplement. J'ai mis en forme certains...
Vous faites toujours ça, hein?
Oui.
Vous partez d'un seuil documentaire.
Là, ça a l'air un peu systématique, mais c'est un peu ce qui me tombe sous la main aussi. Je cumule beaucoup dans ma tête. J'écoute énormément la radio. Donc, par exemple, dans mon dernier roman, Notre vie dans les forêts, le personnage du clicker, c'était vraiment une chronique du matin de Xavier Delaporte le matin sur France Culture qui décrivait ce métier de clicker qui existe pour de vrai. J'étais estomaquée.
Les click workers ou travailleurs du clic, ça sert essentiellement à nourrir en exemple les intelligences artificielles qui ne savent pas encore faire ce travail toutes seules. Il faut qu'on lui dise « ça c'est un chien, ça c'est une voiture » sous tous les angles possibles, afin qu'elle soit ensuite capable de reconnaître un chien ou une voiture. C'est pourquoi toutes les grandes entreprises du numérique, Google, Microsoft, Facebook, Apple, ont créé leur propre plateforme pour que des travailleurs du clic humain nourrissent les machines.
Ce sont, pour le dire vite, des programmateurs de robots. Hein. Alors, j'ai juste un petit peu exagéré dans mon roman, mais trois fois rien. Mais l'idée, elle vient, là, de cette chronique sur France Culture. Voilà, ça se fait comme ça, l'écriture. Ça. Moi, je lis beaucoup aussi la presse dite féminine. Je trouve des tas de choses, des femmes qui parlent, des angoisses de femmes. C'est du matériau extraordinaire.
Mais quand vous aviez des patients et des patientes, est-ce que vous leur voliez des histoires?
Ça, c'est totalement interdit. Mais il y a des images comme ça, que j'ai trouvé d'une beauté, des rêves aussi, d'une beauté extraordinaire. Mais ça, c'est sacré. Enfin, je n'y toucherai jamais. C'est dans ma tête pour toujours.
Et est-ce que ça se retrouve sous votre plume?
Non.
Vraiment?
Non, parce que ce que je retrouve sous ma plume, c'est mes histoires à moi, mais en particulier mes désastres amoureux, mais parfois mes beautés amoureuses aussi, mes paysages beaucoup, mon enfance énormément, mes chagrins à moi, dit de façon différente à chaque livre, je crois.
Où va l'eau, où va l'âme, et la sève, et les larmes, et va nous, oui.
Atelier de Marie Darieusec sur France Inter.
Je reviens à votre ordinateur.
Alors vous allez rire, je ne sais pas où est mon fichier. Je veux dire le fichier du roman, mais je vais le trouver. Alors, c'est celui-là je pense, voilà. Dans l'immédiat, il s'appelle La mère à l'envers. Mais qu'est-ce que je vais vous lire? La situation est toute simple. On est sur ces paquebots qui traversent la Méditerranée, les MSC ou les Costa. Et je vous avoue que j'ai fait des croisières sur les bateaux Costa, parce qu'avec des enfants, c'est très confortable. C'est hyper kitsch. Et donc, c'est une gabégie de nourriture, d'eau potable aussi. Enfin, ce sont des espèces de... d'énormes hôtels flottants qui déversent leur merde, hein, littéralement. Il y a 5000 personnes à bord dans la Méditerranée et dans les océans. Et ces paquebots, un jour, on était au large de Lampedusa. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là s'il y a une barque? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une situation toute simple. Et d'ailleurs, en faisant des recherches sur Internet, Internet a changé la vie des écrivains, c'est arrivé une fois. Il y a un capitaine d'un de ces paquebots qui a pris sur lui de récupérer à son bord 300 migrants.
Il avait pris la mer pour une croisière de 9 jours dans les îles grecques. Mais lorsqu'il arrive au port de Limassol, le Salamis Philoxenia n'est plus tout à fait un bateau de croisière comme les autres. À son bord, il compte 345 passagers qui ne participent pas au voyage. Quelques heures plus tôt, le paquebot a reçu un appel de détresse de ce chalutier parti de Syrie avec de nombreuses femmes, dont plusieurs enceintes, et une cinquantaine d'enfants. Le capitaine du bateau de croisière décide alors de faire demi-tour et d'embarquer ces 345 réfugiés.
Et c'est un truc de dingue, parce que le monde s'entrechoque, enfin, la planète grince sur son axe, parce qu'on a la misère, vraiment, la Somalie c'est terrible. Dans cette classe moyenne européenne qui fait la fête pendant une semaine, il y a des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Russes, des Italiens beaucoup, des Français. Monte à bord, c'est-à-dire monte en soute en fait, hein, parce que bien sûr les niveaux, les étages ne se mélangent pas. Ben, 300 Somaliens, hein, dans le fait divers c'était des Somaliens. Alors je pars de ça. Parce que moi au large de Lampedusa, je me suis dit mais là qu'est-ce qui se passe là s'il y a une barque? Parce que c'est évident qu'ils croisent sans arrêt des barques. Ça ne peut pas être autrement. Bon, bref. Alors ça commence comme ça. Et c'est une psychologue à nouveau qui est à bord de ce paquebot avec ses deux enfants. Elle a des problèmes de couple. Alors elle veut changer d'air une semaine sur son paquebot. Bon, je vous lis ça, c'est un peu au hasard. Hein. Donc c'est la nuit, elle a été interrompue par du bruit, elle s'est réveillée. Elle sort de sa cabine. Des canots de sauvetage s'éloignaient, bruit de moteurs mêlés, et les voix semblaient marcher sur l'eau. Deux étages sous elle, on mettait une chaloupe à la mer. Ratatata, faisaient les chaînes. Elle comprenait qu'on sauvait des gens. Un petit groupe de passagers au bastingage tentait de distinguer eux aussi. C'étaient des Français de Montauban, elle les croisait au restaurant de luxe. Ils la saluèrent, ils étaient ivres. Les deux femmes, jeunes, piétinées en escarpins. « Il y en a pour des plombes !» estima l'une d'elles. Un homme criait à l'autre. « Mais putain, tu es dentiste, dentiste comme moi !» La phrase les faisait rire. Un autre couple d'allure plus sobre courait vers eux, basket et survêtement. Faisait-il du sport à cette heure? Il ne parlait aucune langue connue des Scandinaves. Rose leur expliqua dans son anglais du lycée qu'il y avait là, dans la mer, des gens. Et peu à peu, et comme se donnant on ne sait quel mot mystérieux, des passagers se regroupaient, et aussi sur le pont, juste en dessous. Il était quoi? 5h30. Un employé surgit. « Ladies and gentlemen, please go back to your cabins. » On demandait dans de multiples langues ce qui se passait, alors que c'était évident. « Il y a des bateaux pour ça, pourquoi ils n'appellent pas les flics? C'est à la police des mers d'intervenir, ces gens sont fous, ils emmènent même des enfants. On va quand même pas les laisser se noyer. » C'était une des Françaises qui venait de parler, et Rose eut envie d'embrasser sa compatriote honorable. J'arrête là. Alors après, il se passe plein de choses. Ils finissent par monter à bord une grosse chaloupe avec les gens dedans. Et cette Rose, qui est mon personnage central, je ne vais pas dire mon héroïne parce qu'elle n'est pas héroïque, justement, eh bien, elles se sont concernées. Alors voilà, je suis un peu désemparée face au monde. Alors j'essaye de le mettre en histoire, de le mettre en conte presque, de le raconter, voilà. C'est ce que j'ai à faire de mieux.
Est-ce que c'est bien aussi, est-ce que c'est bon, ce moment où on ne sait pas vers quoi on va et où on ne sait pas faire avancer les choses? Est-ce qu'on y prend aussi du plaisir? Est-ce qu'on se dit, ça va se débloquer d'un coup et ce sera formidable?
Ça m'est arrivé que ça se débloque d'un coup et là, c'est des états de grâce. Et là, quand je vous en parle, oui, je trouve cette situation assez excitante parce que je me dis, je vais trouver une solution. Concrètement, ça va se résoudre par des séries et des séries et des séries de matinées où je serai bloquée là. Devant ce petit bureau, et où il ne se passera rien, et où je n'écrirai pas. Et c'est extrêmement difficile. Et c'est là que l'obstination et cette espèce de folie de l'écriture, enfin, écrire malgré tout, c'est là que c'est en jeu. J'y arriverai. Je ne sais pas quand, mais j'y arriverai. Oui. Après, ce qui sera bon, ce sera à vous de me le dire, hein, au lecteur, aux lectrices. Mais je ne le lâcherai pas avant de, moi, penser qu'il est bon. J'ai jamais, jamais donné à Paul un livre dont je pensais qu'il était comme ci, comme ça, quoi. J'ai toujours fait absolument tout ce que je pouvais pour mes livres. Je fais tout ce que je peux, quoi. Après, on verra bien.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Alors Marie Dariussec, on s'est vu il y a 15 jours chez vous. Est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce que vous avez pleuré devant votre ordinateur en ne réussissant toujours pas à écrire la suite? Vous en êtes où?
Alors, pleurer, non. N'exagérons rien. J'ai pas avancé du tout sur le roman dont je vous parlais, le roman sur les migrants. J'ai pas tellement écrit ces 15 derniers jours. J'ai écrit une chronique pour Charlie Hebdo, ça c'est tous les mois. Je suis dans une autre chronique pour l'Obs, parce que j'aime bien ce rythme d'écrire dans la presse. Mais le roman, non, ça va revenir. Je suis pas trop inquiète.
Est-ce que vous en parlez autour de vous, de ce blocage, ou du roman en train de se faire? Est-ce que vous restez avec vos interrogations, vos questions et vos blocages?
Alors, c'est pas exactement un blocage, c'est un ralentissement, c'est des questions. C'est la conscience que, pour l'instant, ce que j'ai écrit pour ce roman, c'est pas ça que je cherche. Donc c'est pas un blocage, c'est une difficulté, une assez grande difficulté. C'est aussi un roman, ce roman qui est en panne, là, qui m'a ouvert des pistes pour d'autres romans. Donc c'est peut-être un roman matriciel, dont il faut accepter qu'il soit simplement une sorte de réserve.
C'est bien voilà. De pouvoir dire ça, vous n'êtes pas angoissée, d'autres le seraient.
De quel droit je serais angoissée? Ça fait 21 ans que je suis publiée, ça ne s'arrêtera plus maintenant, je veux dire. J'ai plutôt l'impression d'un milieu de vie, d'un milieu de travail. Je ne vais pas dire carrière ni œuvre, ce sont des mots terriblement désuets, je trouve, mais un milieu de chemin, peut-être, je ne sais pas. Là, c'est peut-être un mot trop philosophique.
En tout cas, vous positivez une situation.
Oui, mais la difficulté, je l'ai déjà rencontrée souvent. Je me rappelle par exemple pour un roman qui s'appelait White, j'étais en train de l'écrire en 2000, et puis il y a eu les attentats à New York contre le World Trade Center, et tout s'est effondré, au sens où ce que je connaissais du monde s'est effondré, parce que White c'était un roman qui commençait avec une agente de la CIA. Ça n'avait plus aucun sens, parce que toute la planète se disait, mais la CIA n'a rien vu, rien fait, rien prévenu, etc., et ils sont nuls. Et tout ce que j'avais à dire d'un agent secret, comme ça, ou d'une agente secrète, tombé, enfin, n'avait plus aucune pertinence. Donc ça arrive, les romans qui se cassent la figure, parce que le monde se casse la figure. Alors il faut recommencer. C'est beaucoup plus grave pour le monde que pour les romans, en fait. Hein.
C'est aussi parce que vous avez réussi votre psychanalyse, vous réussissez à positiver.
Alors, je résiste à vos mots. Ce ne sont pas les miens. D'ailleurs, je soupçonne que ce ne soient pas les vôtres non plus.
Junior, qu'est-ce que Junior?
Junior, c'est un groupe de rock. Je crois que, est-ce qu'ils seraient d'accord avec le mot rock? Je crois que oui.
On leur posera la question tout à l'heure puisqu'ils sont là. Hein.
C'est batterie, guitare. On entend ça très fort dans la musique et très doucement aussi. Ils ont un style que j'aime beaucoup. C'est plutôt des femmes. Je crois qu'il y a un seul homme, une voix de femme.
Là, j'aperçois trois femmes et un homme.
Et,
ils
ont un son que j'aime beaucoup. Et pour tout vous dire, on écoute ça dans la voiture le dimanche.
En famille.
On se promenait,
on écoute le groupe Junior. On profite de leur présence. Ici, le titre, c'est « L'accident ». C'est un extrait du premier disque de Junior, « Oulala ».
Aux autres, ni aux ahuris qui roulent à 200. Et si tu cherches à qui la faute, c'est juste un accident. C'était un jour comme un autre. Il aurait fallu être trop prudent. Mais le temps que ta vie te saute, c'était déjà l'accident. Pourtant, tu faisais attention, tu connais bien le genre. Pourtant, t'as perdu la raison. Le temps de l'accident. T'aurais dû le voir venir. Les autos m'ont dit c'était évident. Et t'aurais pu t'attendre au pire avec son rang dedans. T'as du mal à t'en souvenir. T'as même oublié son signalement. T'aurais mieux fait de le fuir. Mais c'était pas bien méchant. Pourtant tu faisais attention. Tu connais bien le genre. Pourtant t'as perdu la raison. Le temps de l'accident. C'était un jour comme un autre. Il aurait fallu être trop prudent. Tu cherches encore à qui la faute, mais c'est juste un accident. Pourtant, tu faisais attention, tu connais bien les gens. Pourtant, t'as perdu la raison, le temps de l'accident.
Marie Dariosek applaudit. On n'est pas très nombreux dans le studio, mais quand même, c'est vrai qu'on a envie de vous applaudir. Anna Jean, elle est auteure, compositeur, interprète. Elle viendra nous parler tout à l'heure. Anna Jean, c'est la leader du groupe. Alors comme ça, dans la famille Dariosek, on écoute ce groupe de rock français.
Mon mari, si vous voulez tout savoir, est curieux de musique actuelle, contemporaine, plus que moi en fait. Et c'est lui qui m'envoie des liens, qui me conseille.
Qui vous nourrit musicalement.
Voilà, oui. Et Junior, c'était un très bon choix. Enfin, il sait aussi ce qui peut me plaire et j'aime beaucoup.
Vous lui faites découvrir quoi à votre mari?
Alors des livres, très souvent. Des articles dans la presse. Des recettes. Je ne sais pas, vous savez, c'est une vie à deux, à la fois banale et magique.
Qu'est-ce que vous faites, Marie Dariosek, quand vous n'écrivez pas? Vous faites les musées? Vous allez dans les galeries?
C'est presque la question de ma vie. Qu'est-ce que je fais quand je n'écris pas? Parce que quand j'écris, je sais ce que je fais. C'est le seul moment où je sais ce que je fais, je crois. Et le reste du temps, j'ai l'impression que c'est ce que j'essaye de faire quand je n'écris pas, la vie. Alors avoir des enfants, là, il y avait une évidence quand même. M'en occuper déjà moins, mais j'essaye quand même. Et voyager, ça je sais faire aussi quand même. Tout le reste est très difficile, enfin, très proche de la mélancolie. Je marche beaucoup, mais quand je marche, j'écris. Enfin, quelque part, c'est infernal. Quand je nage, j'écris. Quand je promène mon chien, j'écris. Quand je suis avec des amis, ça va. J'arrive à être à peu près là. Mais...
Des amis vous divertissent de l'écriture?
Oui, alors bon, peut-être c'est un peu négatif de les voir comme ça, mais heureusement qu'il y a la vie pour me sortir de l'écriture. Ça serait vraiment une maladie mentale, vraiment, sinon.
Vous dites souvent... Et vous vous exprimez très simplement là-dessus que l'écriture vous a sorti d'une folie possible et vous a permis d'éviter la folie.
Oui, d'une folie possible. Heureusement, je suis pas, voilà, j'ai pas pris ce chemin-là, mais je crois que j'aurais pas su traverser certaines choses. Je crois que j'aurais pas su avoir la résistance que réclame la vie. Enfin, la vie est quand même une longue série d'efforts. Hein, et je crois que l'écriture me donne une direction, tout simplement. Le risque, c'est que le reste paraît toujours un peu plus fade, enfin, paraît toujours finalement moins réel aussi, c'est le paradoxe. Mais...
Vous m'avez dit un jour, dans l'émission L'Atelier, j'écris parce que la vie est insatisfaisante.
Oui, je crois que je pourrais dire la même phrase aujourd'hui. Oui, la vie est une série de manque, de joie aussi évidemment, mais elle n'a pas la logique interne d'un roman. Quand vous lisez Guerre et paix, il y a une logique parfaite à ce qui se passe. Et même les romans, même après, même quand les romanciers se sont mis à tout casser, comme le monde était cassé, même Beckett, il y a une logique parfaite à sa démolition. La vie est insatisfaisante parce que sa logique est folle, folle. Et seul le roman, moi je pense que vraiment seul le roman, ou le cinéma aussi, c'est ce type-là de narration, peut nous donner des outils pour essayer d'y voir un peu plus clair, pour essayer de formuler des hypothèses. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive ? Et je pense que la fiction, sous toutes ses formes, est la meilleure solution d'essayer de comprendre ce qui nous arrive.
Vous parliez de l'importance des amis dans votre vie et dans la vie tout court. Il y en a une en face de vous, Jeanne Susplouglas, qui est artiste plasticienne. C'est une amie?
Oui, enfin, on ne se connaît pas non plus si bien que ça, mais on se connaît depuis longtemps.
Il me semble que vous vous tutoyez.
Oui, on se tutoie parce qu'on est exactement de la même génération. Et tu m'as contactée, Jeanne, il y a 15 ans peut-être, non?
On s'est rencontrés, je crois que c'était en 2006, oui. À peu près, 2006 ou 2007. En fait, j'ai lu Truisme et ça a été vraiment un choc. Je rencontrais d'abord une écriture, parce que c'est quand même, je me rends compte dans les livres que je dis, c'est souvent quand même l'écriture qui m'accroche. Et en fait, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai envoyé une lettre, en fait, à l'éditeur de Marie. Et tu m'as contacté quelques jours après. À vrai dire, c'était une sorte de bouteille à la mer, mais je sais même pas si je m'attendais à vraiment recevoir une réponse. J'espérais, évidemment, sinon je ne l'aurais pas fait.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mots ? Qu'est-ce que vous disiez ?
J'avais dû faire quelque chose de court et sincère, comme je fais toujours dans ma vie. Mais truisme, je me suis reconnue et j'ai reconnu... Il y avait comme une rencontre aussi dans notre travail, en fait, si je peux appeler ça... travail. Et en fait, on s'est rencontré avec Marie et j'avais l'idée comme ça de commander un texte et que ce texte, en fait, soit une sorte de source. Une source pour différents types de pièces. Donc, Marie m'a écrit un très beau texte, Iatrogène. Peut-être que tu pourras mieux en parler que moi. Et qui est devenu tour à tour. D'abord, on l'a enregistré, d'ailleurs. Ça a été d'abord une pièce sonore. Et ensuite, c'est devenu un dessin. J'ai extrait une phrase qui est devenue une sorte de slogan et qui continue à exister sous pas mal de formes. On a fait pas mal de performances aussi autour de ce texte. Jusqu'à un petit film qui dure une dizaine de minutes, qui a été tourné au Café de Flore.
Il raconte quoi ce texte, Marie Dariussec ?
Alors, on s'est rencontrés aussi avec Jeanne autour du médicament, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans son œuvre.
Il y a beaucoup de médicaments dans votre œuvre, en tout cas ça vous inspire, hein, notre rapport aux médicaments, les pharmacies, etc.
Et il se trouve que moi je suis une fille d'Istilben, donc j'ai été victime d'un mauvais médicament, d'une hormone de synthèse qui était iatrogène. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, iatrogène, finalement? Je connais mieux tératogène. C'est toi qui m'avais soufflé iatrogène.
Non, je crois pas, non.
Écoute, je sais plus. C'est vraiment un travail à deux aussi, justement. Bon, ce sont des médicaments qui ont des effets délétères ou qui créent des monstres, littéralement. Et donc moi, j'ai une malformation due au distilbène et qui a rendu très difficile le fait d'avoir des enfants. Et je suis marraine du réseau des victimes du distilbène. Et il y avait un point de rencontre évident là-dessus. Et Jeanne travaille aussi beaucoup sur l'intime, mais sur le contrôle de l'intime. Enfin, il y a une série où tu fais ouvrir leur sac à main aux gens, bien avant les contrôles dus aux attentats. Il y a un très beau dessin que Jeanne a fait qui représente des terroristes qui font la queue. Et c'est un dessin qui date d'il y a très longtemps maintenant.
Oui, pas mal. Je sais même plus, mais c'est même avant 2006. Ouais.
Mais les artistes ont la disponibilité mentale et la sensibilité esthétique et artistique pour voir ce qui est imminent, voilà, ce qui va se passer. C'est pas si difficile que ça. Je trouve que ça fait partie intégrante de notre travail, en fait. Et il y avait ça chez Jeanne aussi.
Vous parlez de nous, de nos dépendances, vous travaillez sur toutes les formes de dépendance, par exemple.
Oui, alors c'est vrai que je suis partie du médicament parce que c'est mon histoire familiale. En fait, je viens d'une famille de chercheurs en pharmacie, donc ça faisait partie de mon quotidien. Je pense qu'au début, je ne l'ai pas du tout théorisé. D'ailleurs, c'est venu de manière très spontanée, très évidente. Comme dit Marie, je pose un œil comme ça sur le monde qui m'entoure. Mais après, par extension, en effet, je parle beaucoup des addictions qu'on peut avoir en général aux substances, hein, légales ou illégales, mais aussi... les addictions qu'on peut avoir à l'autre et à soi déjà aussi, le contrôle qu'on a sur notre esprit, notre corps, et du coup aussi qu'on peut avoir sur les autres, le contrôle qu'on subit, toute cette vie que sous contrôle. D'ailleurs, j'ai une pièce en ce moment dans une expo à Paris qui est juste ce mot comme une enceinte lumineuse, contrôle, qui est une exposition qui est en ce moment à la Galerie Mansart dans le Marais. Mais c'est un mot qui résume assez bien une grande partie de mon travail.
Vous touchez à plusieurs médiums, la photographie, la vidéo, vous écrivez des phrases qui deviennent un objet en soi, et puis vous construisez des petites habitations souvent.
Oui, et la maison, c'est vraiment au cœur de mon travail. Pour moi, la maison, enfin, c'est pas que pour moi d'ailleurs, mais elle symbolise l'intime. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Comment on vit la relation à l'autre, au couple, à la famille? Il y a aussi la famille amicale. Donc, c'est tous ces rapports-là et aussi comment on vit dans le groupe social. Donc, ces maisons, en fait, elles se déclinent. Il y a plein de formes. En fait, ça va de toutes petites maquettes à des énormes maisons. Il y en a une que j'ai montrée à la maréchalerie à Versailles, et c'était une installation de plus de 10 mètres de haut, et je demandais, en fait, ce sont des portraits, en fait, ces maisons, ça s'appelle Flying House, et je demande aux gens, en fait, qu'est-ce qu'ils prendraient s'ils devaient partir de chez eux avec l'idée de jamais revenir. Donc ça a commencé par une série de dessins, donc c'était comme des portraits, une petite maison et une dizaine d'objets, et ensuite, à la maréchalerie, je me suis dit quels objets je vais choisir, et donc j'ai revu un peu tous les témoignages que j'avais eus, et j'ai fait des petits groupes comme ça, donc entre les objets très terre à terre, un canif, voilà, une arme pour me défendre, des baskets, un maillot de bain, ça revient bizarrement, le livre qui revient très souvent, et après des objets plus fétichistes, une bague de famille, un objet... Mais il faut les voir parce que c'est aussi beaucoup lié au texte. Je demande souvent à des écrivaines et écrivains de m'écrire des textes et je leur donne des mots-clés. Je sélectionne aussi moi ce qui me plaît. Bon, avec eux, hein, c'est toujours un travail très, très partagé. Et pareil, ces textes, je m'en sers, je les décline en... ça devient du son, des images, des dessins. Et la littérature me nourrit d'abord et nourrit mon travail en permanence.
Vous avez eu envie peut-être au départ d'écrire ou c'était déjà l'idée d'être plasticienne qui vous tenait ?
Je pense que c'était plutôt quand même l'idée plasticienne, parce que c'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais je pense que c'est jamais sorti de ma vie. On commence tous par la peinture, le dessin. Et voilà, il y en a qui décrochent, on sait pas trop pourquoi à un moment donné. Moi, j'ai continué. Après l'écriture, je pense que c'est une forme de fantasme, mais sans aigreur ni quoi que ce soit. Ça me fascine. Je me demande toujours comment font les écrivains pour partir d'une idée, classer ses idées. Je trouve ça fantastique. Quoi. Et l'écriture, tomber en amour comme ça pour une écriture, avoir envie de la retrouver, retrouver des personnages.
Ben, c'est obsessionnel, disait à l'instant Marie Dariussecq.
C'est inévitable, quelque part. Enfin, le matin, quand je me lève, c'est ça que je veux faire. Un peu comme toi, mais c'est pas le même médium. Quoi. Oui.
Ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai l'impression que c'est ce qui me sauve toujours, en fait, de la vie. Cette vie qui est beaucoup trop brutale, en fait. Et j'ai toujours l'impression de pas vivre dans la vraie vie, d'ailleurs. Quand j'y suis confrontée, je me dis, voilà, j'ai quand même de la chance de pouvoir me mettre dans cette espèce de bulle, de parenthèse, et qui est pas non plus quelque chose de très douloureux. Ça peut être compliqué, ça peut être très fluctuant, mais c'est un endroit au contraire dans lequel je me sens bien en fait. C'est mon espace à moi. Et c'est vrai que c'est toute la journée, c'est tout le temps quoi.
On sent un langage commun entre Marie Dariussecq et Jeanne Susplugas. Je trouve que vous êtes assez sœur, assez cousine dans votre manière d'exercer votre passion, Marie Dariussecq.
Oui, probablement. Parce qu'il n'y a pas de doute sur ce qu'on doit faire. Il y a beaucoup de doutes sur comment on le fait, sur comment le mettre en œuvre, sur l'énergie qu'il faut, etc. Mais sur ce qu'on doit faire, les artistes sont des gens qui ont cette chance de savoir ce qu'ils doivent faire. Voilà. Après, ça peut être des vies très douloureuses aussi. Hein, mais c'est une immense chance, ça, de savoir ce qu'on doit faire, quand même, sur cette terre. Après, il y a un point commun que je ne renie pas du tout, c'est le fait qu'on est deux femmes. Et donc, il y a une approche du monde qui est particulière, parce que, non pas parce que ça serait biologiquement différent des hommes, mais parce que ça fait les femmes, depuis des milliers et des milliers d'années, sont dans une situation sur la planète qui est une situation de deuxième, qui est une situation de dominée. Et donc, on doit faire sa place sous une domination masculine, qui peut être très affectueuse, mais qui existe, qui est de fait, le monde est un monde d'hommes. Et ça donne à l'art des femmes. Je ne crois pas du tout qu'il y a une écriture féminine, au sens d'une biologie de l'écriture, mais je pense qu'il y a une écriture des femmes, ou un art des femmes. Et cet art passe souvent par les maisons. Louise Bourgeois a fait des maisons. Annette Messager, c'est quelqu'un aussi qui est dans des habitats, souvent. Enfin, même Sophie Calle, aujourd'hui, son exposition au Musée de la Chasse et de la Nature, c'est aussi des maisons pleines d'animaux. Mais ce sont des artistes extrêmement différentes, mais la maison est quand même le lieu d'assignation traditionnelle de la femme. Et il a fallu que... Il y a une photo de Louise Bourgeois qui est littéralement sur le toit de son appartement, de sa maison, parce qu'elle n'a pas la place chez elle de faire ses premiers grands totems. Donc elle sort littéralement de sa maison, pour faire d'ailleurs des maisons. Et c'est comme ça. Et ça nous rend aussi très créatives.
Vous restez avec nous, Marie Dariussecq, dans le Grand Atelier. On continuera à parler de vous, de votre travail, de vos amis, des femmes que vous avez invitées. Elles sont nombreuses. Je vais remercier Jeanne Susplugas. Qu'est-ce que c'est que ce livre que j'ai sous les yeux ?
Oui, c'est une monographie qui est sortie l'année dernière aux éditions Norma. Et c'est un point comme ça d'une quinzaine d'années, un peu plus maintenant, presque une vingtaine d'années de création.
Eh bien, merci beaucoup d'être passé dans le Grand Atelier de Marie Dariussecq.
Merci à vous.
Deuxième heure de notre grand atelier en compagnie de Marie Dariussecq, dont je rappelle la sortie début septembre, fin août, début septembre, de Notre vie dans les forêts chez POL. Un prochain roman est en cours d'élaboration. Est-ce que d'autres romans, Marie Dariussecq, commencent à vous taper sur l'épaule en vous disant « Hep, écris-moi ».
Oui, en fait une bonne dizaine à vrai dire.
C'est énorme.
Oui, ma question c'est est-ce que ma vie sera assez longue pour écrire tous les romans que j'ai dans ma tête. Donc ils sont là, je sais ce que je dois écrire, j'ai une sorte de programme même si ça reste quand même heureusement assez flou.
C'est curieux parce que souvent vous réagissez en tant qu'écrivain à ce que vivent les autres, à ce que vous vivez, à ce que vit la société.
Bien sûr.
Et pourtant vous avez déjà 10 promesses de romans.
Oui, c'est une sorte de dynamique. Dans mon roman Le Bébé, enfin dans mon livre autobiographique pour le coup, Le Bébé, que j'ai écrit au début des années 2000, j'ai été amenée à le relire là récemment. Et il y a tout un programme comme ça, j'annonce les livres que je vais écrire. Ce qui est amusant, c'est que j'en ai écrit un seul sur toute la liste.
Ah oui.
Donc c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que le monde va venir me changer et changer mes projets, bien sûr. Je réagis au monde. Mais j'ai une direction. La direction, je vois ce que c'est, elle est géographico... familialo, politique. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Ce qui est le cas depuis Truisme. Hein.
Oui, non, c'est vrai. Oui.
Vous avez accepté cette idée un jour d'être une romancière aussi politique, pas simplement féminine ou féministe, comme on a tendance à le dire.
Oui, mais le mot féministe, je le revendique. Enfin, ça ne me gêne pas du tout qu'on puisse me lire de façon féministe, au contraire. Après, on peut lire mes livres de diverses façons. Mais la direction, elle est... J'aurais du mal à la résumer, je crois, mais il y a quelque chose qui se passe entre les divers états du corps. Ça va de l'animal au fantôme, et c'est traversé par beaucoup d'eau, d'océan, de feuillage. Voilà, il y a quelque chose comme ça de tectonique aussi. J'aurais du mal à le décrire avec des mots de la théorie littéraire, même si j'en ai fait et que ça m'a aussi aidé. C'est plus des mots. J'ai besoin des arts plastiques justement. J'ai besoin de vision, de choses, oui.
Et de musique.
Et de musique.
Et du groupe Junior, qui est votre invité. Ils sont là, sont majoritairement des femmes, mais il y a quand même un homme. On en parlera avec eux dans un instant. On va écouter Anna Jean, qui est auteur, compositeur, interprète, et le leader de ce groupe Junior. Un deuxième titre dans notre studio 106 de la Maison de la Radio. Vous écoutez France Inter, bien sûr, vous écoutez le Grand Atelier de Marie Dariosec.
Peut-être au Népal, paraît que les ciels y sont plus beaux. Un vol direct ou avec escale, pour passer de nuit à Oslo. On enverrait des cartes postales, je laisserai un mot sur le frigo. On déciderait de se faire la malle, ta famille, les amis, le bureau. Dans mon sommeil paradoxal, je rêve que j'ai du mal à me réveiller. Suffirait de se faire. On irait se perdre à Milan, en revenant d'Afrique centrale. On dormirait chez l'habitant, on dormirait à la belle étoile. Vladivostok, y a un bateau, comme ce serait l'idéal. On irait faire un saut à Tokyo, se promener dans le jardin intérieur. Dans mon sommeil paradoxal, je rêve que j'ai du mal. Thank you. se dispute réellement. Sûrement qu'on serait de nouveau poids. On irait cueillir des avocats dans une chaleur infernale. On irait déjeuner à Beyrouth, s'endormirait à Montréal. On s'arrêterait sur la route dans un petit hôtel.
Voilà, c'était le groupe Junior, deuxième live dans le grand atelier de Marie Dariussecq. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, Anna Jean. Ça vous plaît toujours, Marie Dariussecq? Vous sentez que vous allez remettre le disque dans votre voiture?
Ah oui, 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 oui.
En repartant tout à l'heure?
C'est très addictif, je trouve.
C'est très addictif.
Très rêveur et en même temps très écrit.
Bonjour Anna, tout va bien?
Très, très heureuse d'être ici aujourd'hui,
ravie
d'être
gentil, oui.
L'invité de Marie.
Vous êtes l'invité de Marie Dariussecq, vous vous appelez Anna Jean, c'est pas votre vrai nom?
C'est un pseudo. C'est mon vrai nom dans le sens où c'est le nom de famille, le nom de jeune fille de ma mère, mais oui, c'est un pseudo.
Pourquoi ce désir de pseudo ?
Initialement, je crois que c'était parce que j'avais pas envie que les gens avec lesquels je travaillais au départ soient assimilés nécessairement à mon père. Je trouvais que c'était un peu injuste parce que je faisais que des petites choses, je faisais des voix sur des morceaux et je me disais que c'était un peu injuste.
Je peux raconter l'histoire ?
Déjà, qui est le père
alors,
d'Anna ?
Alors, justement, ça m'intéresse. Moi, c'est mon mari qui m'a branché sur votre musique. Et alors, je me mets à vous écouter. Et puis, comme je suis très curieuse, je vous google. Moi, je suis venue vraiment par leur musique et pas par le papa de Anna, qui est donc le Clésio. Et ça m'a émerveillée au sens où je me suis dit, c'est pas possible. Un groupe que j'adore, en plus, c'est la fille de le Clésio. Mais je suis pas venue du tout par là.
Ça me rassure un peu parce qu'au départ, je me suis posé la question.
Pas du tout. C'est pas parce que je suis écrivaine et que j'admire par ailleurs beaucoup votre père et qu'il a un jour écrit un article extrêmement élogieux sur un de mes romans, sur White, et que ça m'a bouleversée. Bon, ça, c'est très important pour moi. Mais je ne suis pas du tout venue à votre musique par là. Pour moi, c'est de l'ordre de la coïncidence. Et après, oui, effectivement, l'écriture, il y a peut-être quelque chose dans vos gènes, parce que c'est vous qui écrivez les textes.
Oui.
Voilà,
oui.
Ils sont formidables, vos textes.
Vous diriez que vous écrivez sur quoi, Anna Jean ?
Je crois que j'aime bien les histoires. Évidemment, le fait d'être la fille d'un écrivain, c'est un peu particulier. Je crois que peut-être un jour, vos enfants vous
poseront la question.
Mais du coup, ça fait que l'idée de raconter des histoires... En tout cas, de cette façon-là, en chanson, c'était une bonne façon pour moi d'éviter de prendre le même chemin que mon père et en même temps de pouvoir me prêter à ce jeu-là de raconter des histoires. Et j'aime bien l'idée de raconter des histoires un peu floues, qui sont pas forcément toujours les mêmes, c'est pas les mêmes pour tout le monde. J'aime bien cette idée-là.
Vous allez du côté de la poésie parfois ?
Alors oui, mais alors je me sens vraiment pas poète pour le coup, je me sens pas poète pour dessous vraiment, mais j'aime bien c'est vrai que j'aime bien la poésie assez simple mais efficace de Prévert par exemple.
Est-ce que votre père se mêle de votre écriture ?
Pas du tout. Alors pour plein de raisons, d'abord je pense que parce que je lui demande pas trop, mais aussi je crois que parce qu'il est on est tous les deux très pudiques, donc on parle assez peu de ce qu'on fait. Lui, pendant que j'étais enfant, il parlait très peu de son écriture. Et du coup, je crois un peu machinalement, j'ai reproduit un peu ce même système. Mais je crois surtout qu'il est émerveillé par la musique. De savoir que je suis capable d'écrire de la musique, il trouve ça complètement incroyable. De la même façon que pour moi, un roman, c'est complètement mystérieux. Je crois que pour lui, la musique, c'est vraiment complètement mystérieux.
Et vous faites claquer le français, j'irai cueillir des avocats, d'une façon que j'aime beaucoup. Vous êtes dans une lignée de la tradition de la chanson française, enfin, j'espère que ça ne vous déplaît pas comme
idée. Ah non, au contraire.
Qui sait justement faire sonner le français avec une... C'est très très rythmé. Vous chantez aussi parfois en anglais, n'est-ce pas ?
Ça m'est arrivé, ouais. mais le français, c'est précisément pour cette raison que j'aime bien le français, c'est que ça claque, j'aime bien.
Pour moi, ce n'est pas tant la fille de Le Clésio que la fille de Françoise Hardy, pardon pour votre maman, mais il y a quelque chose de très... Dans cette articulation, et aussi bien sûr de Bachung, enfin de...
Vous moi, avez un peu sa tradition. Coiffure des années 70.
Oui, c'était volontaire.
C'est une idole ?
J'aime l'idole qu'elle a été, justement, plus que la personne, je crois, parce que je ne la connais pas, par ailleurs, mais j'aime l'icône qu'elle a été.
Il y a aussi d'autres fantômes. On employait le mot fantôme avec l'écriture et les livres de Marie Dariussecq. Dans votre premier disque, je rappelle son titre, c'est « Oulala », il y a Gainsbourg.
Oui.
Et puis, il y a Antoine Doinel. Donc, totalement. Des personnages vivants, des morts et aussi oui. Des personnages de fiction.
Totalement. Oui. Et j'aimais bien aussi l'idée... de mélanger des choses qui étaient pas faites pour être mélangées aussi. Je crois que les gens qui sont vraiment fans hardcore des années 60 sont un peu vexés par moments parce que on mélange un peu des genres qui étaient pas compatibles à l'époque.
Junior est majoritairement composé de musiciennes.
Oui.
Pour quelles raisons vous avez souhaité vous entourer de femmes principalement ?
Alors, initialement, c'était pas vraiment une volonté particulièrement politique ou philosophique. Je crois que c'était parce que j'avais envie de le faire avec des amis et il se trouvait que mes amis les plus proches étaient des femmes. Et puis ces femmes ont fini par faire autre chose. Il y en a une qui a été promue, il y en a une qui s'est mariée parce qu'on a toute la trentaine bien sonnée. Du coup, c'est la vie. Continue, avance. Et quand il a fallu les remplacer, je me suis aperçue qu'il y avait assez peu de musiciennes professionnelles, qu'il y avait beaucoup plus de musiciens que de musiciennes professionnelles. Et du coup, c'est devenu une vraie motivation d'essayer de trouver des femmes. Et j'ai trouvé donc Soigné le Zingre qui joue de la batterie, qui joue merveilleusement bien, qui est mon batteur préféré. Et Laure Weisdorf, qui est claviériste, qui est arrivée au moment de la sortie du disque, qui a une formation classique et du coup qui amène une complexité à ce qu'on fait qui est importante, moi que j'apprécie beaucoup.
Juste une anecdote, et juste pour en finir avec Jean-Marie Le Clésio, votre père, en tout cas aujourd'hui, si vous le permettez, racontez-nous ce qu'il vous dit quand vous rentrez de concert le soir.
Il a un vocabulaire assez désuet, et du coup quand il me parle de ce que je fais, au lieu de me parler de mon groupe, il me parle de mon orchestre, par exemple. Il me dit « Alors, avec ton orchestre, ça se passe bien ?» Et c'est vrai qu'il me demande à chaque fois comment s'est passé mon tour de chant avec mon orchestre, ce que je trouve évidemment adorable.
Et ça l'est. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand Atelier sur France Inter, le Grand Atelier de Marie Dariussecq, et longue vie à Junior alors.
Merci. Merci Marie de nous avoir invité.
Merci pour la musique et pour votre présence.
Madame la romancière, nous sommes allés ensemble chez Emmanuel Charles, un scénographe, un décorateur, un concepteur d'objets, un homme qui travaille souvent avec le metteur en scène Michel Faux, qui conçoit les espaces, les décors de ses spectacles. Alors, on va l'écouter chez lui dans son atelier, mais pourquoi souhaitiez-vous sa présence dans votre émission ?
D'abord parce que c'est un ami et que j'aime son atmosphère, et puis j'aime son travail, j'aime ses couleurs, j'aime son univers baroque, et c'est un univers qui, même quand je passe chez lui et que je vois les maquettes sur lesquelles il est en train de travailler, c'est un univers qui m'inspire, pour dire ce mot aussi un petit peu désuet peut-être, mais ça me redonne du courage. C'est un homme très courageux artistiquement.
On va le découvrir, Emmanuel Charles, chez lui à Paris, près de la Porte d'Orléans.
Hello.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Je lâche le faux.
Lâche le chien.
Où est-ce qu'on est ici, Emmanuel Charles ?
Donc ici, on est dans l'atelier, à la maison. Enfin, c'est un espace un peu qui peut changer de géométrie, en fait, hein, parce que ici, là, il y a une grande table, parce que là, j'ai fait des maquettes ici. Mais des fois, je peins aussi des toiles au sol. Donc, parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est avec mon métier, c'est que ça me permet de faire des choses très différentes. À la fois. des grands formats, et puis aussi dans la phase projet, travailler sur des miniatures, quoi. Voilà. Donc ça c'est.
Ah ben là justement, je fouille sur ton bureau, hein, je vois le cheval extraordinaire du Tartuffe. C'est celui-là,
ah,
non?
Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est
donc
ça.
Un dessin.
Ouais. Ouais. Préparatoire, c'est ça? C'était.
Oui. Ouais. Oui.
Qui est tout petit, alors que le cheval, il est.
Il fait 4 mètres.
Il fait 4 mètres, hein, ouais. Quand ce cheval apparaît. C'est, oui. C'est un grand moment.
Il y a un soir sur deux, les gens applaudissent. Hein.
Ah oui.
C'est étonnant. Hein. Michel Faux m'avait demandé qu'il y ait un cheval. Il voulait qu'il y ait un cheval sur scène. Et donc, j'ai pensé tout de suite à cette. À ces chimères, là. De...
C'est un cheval poisson.
C'est, oui, c'est, là, c'est un hippocampe.
C'est littéralement un hippocampe.
Exactement. C'est littéralement un hippocampe. J'étais un peu déçu.
Ceux qui sont à la fontaine de Port-Royal.
Exactement.
C'est ça,
il y en a 8. Et puis, alors, c'est vachement bien, cette fontaine, parce que le sculpteur, en les faisant, les a fait bouger. Donc,
ils ont tous des attitudes.
Ils ont tous une attitude un peu différente. Donc, ce qui fait que si on faisait un bout à bout, on les verrait bouger.
Donc, vous avez proposé ça comme dessin à Michel Faux, et
oui.
Ensuite, il a fallu faire une maquette.
Voilà, c'est ça. Et puis, lui, évidemment, le côté baroque l'a emballé. Donc, on est allé à fond dans le cheval. Voilà, donc ça fait ça.
Un métier de magicien, scénographe, décorateur.
Ah oui, là, c'est vrai que ça permet de recréer le monde, quoi, d'une certaine façon. C'est tout simple. Enfin, c'est aussi parce que c'est beaucoup cette approche artistique. Michel Faux, il fait ce métier pour explorer des choses, quoi.
Ce qui me frappe, moi, c'est que pendant toute la pièce, en fait, on ne sait pas quelle est la vraie couleur du décor.
Oui.
Grâce à la lumière.
Oui.
Ça varie d'une façon extraordinaire,
voilà.
selon les actes, selon
oui,
les moments.
Alors ça, c'est aussi par souci de créer des tableaux qui soient à chaque fois différents. Parce qu'un décor, ça dure...
Toi, tu sais ça en avance, c'est-à-dire tu veux...
Je sais qu'il va complètement tout déconstruire au niveau couleur ensuite.
Avec la lumière.
Avec la lumière, qui va jouer avec ça. Mmh. Qui va envoyer du vert, du bleu, plein pot, et que d'un seul coup, voilà. Donc... Avec l'expérience, je sais que plus le décor a toutes les composantes de couleurs, et plus ça va, justement, en éclairant avec des complémentaires, ça va révéler certaines parties, au contraire. Voilà. Donc là, sur ce projet-là, en fait, le précédent, on avait fait un monochrome, et là, quand il m'a posé la question « quelle couleur ?», je lui ai dit « moi, je vois un truc très coloré parce que les églises étaient toutes peintes, parce que au départ ça devait se passer dans une chapelle, donc au 17e ou 18e les églises étaient peintes, les il y avait tous les stucs et tout ça, donc je lui ai fait des photos d'églises où je lui ai montré que c'était très coloré, donc il m'a dit ok, on fait ça.
Ce qui me plaît beaucoup, c'est que comme donc c'est Michel Bouquet hein, oui. qui joue le maître de maison et que évidemment il est âgé, il y a une scène très célèbre du Tartuffe où il doit se cacher sous une table.
Oui.
Et donc Manu a inventé la table très haute sous laquelle Michel Bouquet n'est pas obligé de s'accroupir comme le voudrait la pièce.
Dans cette fin de vie, il y a quelque chose de terrible. C'est un rôle très fatigant, oui. Et à mon âge, c'est homérique.
Du coup, j'ai fait cette chose, donc qui permet à Michel Bouquet de passer dessous. Enfin, alors cette chose-là, ça s'avance. Alors, attends, c'est comme ça, on va le faire. Hein. Et donc Michel Bouquet s'assoit là-dessous et je le vois, parce que je le vois régulièrement, et il se carapate, il joue avec ça, donc c'est aussi ça qui amuse beaucoup les gens, parce qu'on le voit...
On voit qu'il est caché.
Et on voit qu'il joue en permanence pendant toute la séquence.
Ah oui.
Quoi.
Il y a quelque chose de mystérieux pour vous dans le métier d'Emmanuel Charles, Marie Dariosec?
Mystérieux, je dirais pas ça, parce que... On est deux artistes, mais alors évidemment, on ne travaille pas du tout sur les mêmes matériaux. Moi, c'est les mots, et toi, c'est les formes et les couleurs.
Tous les écrivains ne se disent pas artistes.
Non, je sais, mais je ne vois pas ce qu'on est si on n'est pas des artistes. le fait que le matériau avec lequel les écrivains travaillent, c'est le matériau de tout le monde, c'est-à-dire le langage. Mais il faut qu'on isole notre propre langage dans ce langage. De même que Manu, il travaille avec les couleurs qui, au fond, sont à tout le monde, mais il va isoler sa propre palette dans ses couleurs. Et certes, le matériau qu'il utilise n'est pas aussi répandu, je dirais, que le langage, mais pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Enfin, moi aussi, il faut que je fasse ma propre palette, mes propres formes. Et puis aussi au niveau de la vie quotidienne, on a une vie d'artiste. Enfin, le fait de pas devoir se rendre au bureau tous les matins, le fait d'avoir son propre rythme, sa propre discipline, c'est des choses que les artistes ont tous en commun, ça. Personne ne nous oblige à faire ce qu'on fait. Enfin, donc il faut qu'on trouve en nous cette énergie. On pourrait tout arrêter. Enfin, mais non, ça continue.
Moi, c'est quelque chose que tu connais pas, mais moi, j'ai toute la phase de mise en œuvre qui là me demande d'aller vers les autres, quoi, vers ceux qui vont fabriquer, peindre, tout ça.
Après la maquette,
après la maquette.
Le travail d'équipe.
Le travail d'équipe, et ça, c'est hyper agréable.
Et tu continues à aller presque tous les soirs voir la pièce.
Ah oui, j'y vais très souvent.
Et pourquoi?
Ce qui m'émeut, c'est que dans le fait d'être au théâtre tous les soirs, il y a aussi un truc. Qui fait la nique à la mort, quoi. Je trouve que c'est-à-dire que tous les soirs, on recommence, hein, et on repart du départ et on rejoue le truc.
Est-ce que se remettre dans un livre, c'est la même démarche?
Non,
la mort.
J'étais en train d'y réfléchir. Moi, j'ai pas cet effet de recommencement puisque c'est jamais le même texte. Ni de contact direct avec le public, ça c'est très différent.
Ouais.
Parfois je vais dans des librairies, mais ça n'a rien à voir avec une salle de spectacle. Ça c'est quelque chose que je trouve quand je lis en public, la salle de spectacle, c'est vraiment extrêmement excitant. Ouais. Mais le contre la mort, c'est un peu différent. J'ai plutôt cette idée que je mourrais avant d'avoir écrit tous les livres que j'ai dans ma tête. Enfin, c'est plutôt ce sentiment d'urgence. Ouais. Et écrire pour le théâtre est une chose qui me travaille. Enfin, j'ai déjà essayé un peu. J'y vais, mais ça me prend du temps. Je ne suis pas encore tout à fait prête.
Qu'est-ce qui manque?
Il manque un rapport au dialogue, tout bêtement. Moi, j'aime beaucoup installer des univers, d'écrire, être dans la tête des personnages. Et au théâtre, on ne peut pas se permettre d'être dans la tête des personnages. Il faut qu'ils parlent. Et il faut que chaque phrase prononcée soit justifiée par la scène. Eh bien, j'y suis pas encore. Je ne sais pas encore bien le faire.
Le grand atelier de Marie Darieusec.
Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Oh, I got it.
Oh, que Marie Darrieussecq semble aimer Mika, Grace Kelly, cet extrait de son premier disque en 2007. Le disque, c'était Life in Cartoon Motion. Alors, vous avez dansé, là, je vous ai vu.
Ah oui, c'est formidable pour danser, Mika.
Nelly Blumenthal fait partie de vos invités. Bonjour, Madame Blumenthal.
Bonjour.
Madame l'illustratrice, vous n'êtes pas écrivain, vous n'êtes pas chanteuse. Vous dessinez, vous racontez des choses réelles ou pas avec vos crayons.
C'est ça. Je suis complètement au service de l'écriture, en fait. La justesse des mots me donne l'expression des personnages. Et c'est très facile avec Marie.
Vous publiez des livres chez Albin Michel Jeunesse. Il y a notamment deux livres avec Marie Darrieussecq. Alors, je les ai sous les yeux. Il y a Péronille la chevalière et puis Le chien croquette. Vous vous êtes rencontrés comment, Nelly Blumenthal, Marie Darrieussecq?
On s'est vraiment rencontrés par nos enfants, pour le coup. C'était les sorties d'école, parents d'élèves. Les enfants grandissaient, j'avais envie de raconter, d'écrire des histoires pour enfants, ce qui est un art très difficile. C'est un art de la concision, de la suggestion. Il faut que chaque phrase contienne un monde, en fait. Que chaque phrase puisse leur amener tout de suite à eux des images dans la tête et rencontrer l'illustrateur ou l'illustratrice qui produisent ces images, voilà. Et j'avais vu chez Nelly, en tant que voisine et amie, un petit dessin d'une de ses filles. Et ce dessin était formidable. Enfin, c'était un dessin à l'encre, à la ligne claire. Mmh. C'était ça que je voulais, en fait. Et ça a commencé comme ça, tout simplement.
En fait, c'était chouette parce que on a passé beaucoup de temps à faire autre chose qu'à travailler ensemble. Et d'un seul coup, elle m'a offert un livre, une histoire, enfin, une histoire.
Mmh. C'était Péronille.
Oui. Et la justesse des mots fait que les images viennent très vite et de façon, enfin, moi j'ai un graphisme très fort, donc ça se posait comme ça avec les mots de Marie, et ça s'est très bien passé, jusqu'au moment où je lui envoyais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'images tous les jours. J'ai tendance à faire beaucoup d'images, souvent la même.
Pente. Avec des nuances qu'elle seule
Marie
voit.
N'en pouvait plus de voir toutes ces images qui arrivaient dans sa boîte, qui étaient les mêmes pour elle. Oui, elle est très bien, elle était très gentille.
Des images médiévales, hein, oui. Des châteaux forts, oui. Cette petite chevalière sur un cheval, des armes, des couleurs très fortes, effectivement. Il y a des oranges poussées, des jaunes, des verts.
Ouais.
Et puis, Marie Darrieussecq, le dessin qui volontiers, délibérément, envahit souvent la page.
Ah oui, ça c'est très bien, c'est un album, Nelly avait la place de faire des grands dessins. J'allais dire, c'est curieux, la phrase est presque illustrative du coup, ça s'inverse presque le rapport, c'est le texte qui vient illustrer l'image. Et puis on était aussi d'accord sur le sujet, c'est un livre féministe, oui. C'est un livre d'une chevalière, alors c'est déjà la féminisation du mot chevalier, une affirmation. Et puis c'est une chevalière qui est active, qui vit des aventures pendant que le prince l'attend, et à la fin il ne se marie pas. On a eu l'occasion de lire plusieurs fois ce livre dans des écoles, et ça produit des effets sur les enfants, des effets très intéressants, de surprise.
D'inverser comme ça les codes du conte traditionnel.
Oui, oui, oui.
Déjà, sur le costume de la chevalière, une chevalière, normalement, il y a plein de choses qui protègent la chevalière. Et là, c'est une petite fille, moi, que je voulais vraiment libre, forte, mais d'elle-même. C'est-à-dire sans, elle est pieds nus, elle a une petite robe à fleurs, et elle a son épée quand même, et ses grands cheveux longs. Et elle va conquérir le monde.
Elle n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même,
voilà,
pour conquérir le monde.
Voilà, hein. C'est ça.
Oh, j'ai compris Péronille la chevalière. Je suis pas peu
fière. Souvent très étonnant aussi, quand on faisait des lectures, c'est les grands-mères qui venaient nous voir en nous disant « Vous faites tellement bien. Je le dis à ma fille. Parlez de ça à vos filles. Elles oublient de le faire. Nous, on est cette génération qui avons lutté pour vous. » Et n'oubliez pas de le faire encore aujourd'hui.
Alors moi, je ris parce qu'en début d'émission, j'ai présenté Marie Darrieussecq comme un auteur qui n'est pas seulement un auteur féministe et qu'il faut aussi lui parler d'autre chose, lui parler de ses fantômes, de ses spectres et de ses animaux présents dans son œuvre. Mais finalement, là, quand vous parlez à des enfants, à travers un livre d'enfants, là aussi, il y a un discours féministe.
Oui, mais c'est aussi un discours qui va de soi. Enfin, c'est comment peut-on ne pas être féministe? C'est la question que pose Beyoncé dans ses chansons. Enfin, aussi, je veux dire, maintenant, ça va mieux. C'est-à-dire, qui n'est pas d'accord avec ça? La proportion se renverse. C'est-à-dire, on n'est plus ridicule à exiger l'égalité. On n'est plus ridicule à exiger que cesse le harcèlement de rue. Il y a enfin un nom pour ces phénomènes. Nous, on est d'une génération où quand on se faisait embêter dans la rue, il n'y avait pas de mots pour ça. On ne savait même pas de quoi se plaindre exactement. On était tellement dans le choc, dans la révolte, dans la rage, qu'on ne trouvait pas les... Voilà, ça s'appelle du harcèlement de rue. C'est très bien que ce soit nommé et ça fait progresser les choses. Et la police saura comment traiter ça, parce que c'est une affaire de cité, de police au sens politique aussi. Donc oui, je ne refuse jamais d'être féministe. Même ça me porte.
Allô?
Ouais, Juliette, je suis avec Jean-Denis Gilière. Il aimerait beaucoup te voir. Je lui dis de monter.
Ah non. Ah non, 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 je t'en supplie, pas lui.
Ok, mais Juliette, il possède la moitié des médias français.
Je m'en fous, moi. Non, attends.
C'est un plomb, ce mec. J'étais assise à côté de lui dans un dîner au festival de Cabourg. J'ai vaguement ri à ses blagues. Résultat, il est persuadé que je suis à moitié dans son lit. Non.
Bon, écoute, je vais gérer.
Juliette Binoche dans la série de France 2, 10%, un homme d'affaires richissime, Marcel, une vedette du cinéma. Dominique Besnéard qui a créé cette série, entre autres, et qui a créé cet épisode, dit s'être souvenu de certaines réalités qu'il a connues et entendues. Alors on pense à l'affaire Weinstein, on peut dire Weinstein ou Weinstein, on dit comme on veut, ce producteur souverain d'Hollywood. Vous commenciez à faire allusion à ce que vivent les femmes et les hommes aujourd'hui et à ce hashtag balance ton porc sur Twitter. Vous vous situez où? Vous réagissez comment, Marie Dariussec?
Alors je suis très 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 contente qu'on en parle enfin de façon massive. Après je suis quand même très dérangée par l'appel à la dénonciation massive aussi. Enfin, ça me pose un vrai souci. Il faut vraiment qu'il y ait des lieux où on puisse se plaindre. Mais vraiment que ce soit les commissariats de police. Enfin, c'est leur boulot et il faut qu'ils soient formés à ça. Sur Twitter, ça me paraît très problématique. En même temps, je suis heureuse qu'enfin toute la société, qu'on ne puisse plus nier ce phénomène. Moi, quand j'ai débarqué à 19 ans à Paris, ma vie dans la rue était un enfer, et on le sait toutes. Et quand on en parlait aux garçons qui nous entouraient, comme en général on choisissait des garçons plutôt sympathiques, ils étaient stupéfaits, et souvent ils ne nous croyaient pas. Parce que le phénomène s'annule quand on est accompagné par un garçon. C'est comme la physique quantique, hein, quand on veut observer, le phénomène s'annule. Quand on est accompagné par un garçon, on ne se fait pas traiter de salope dans la rue. Moi, j'ai une fille qui est adolescente, elle sait déjà que si elle met un short, sa journée va être impossible. Et elle sait que si elle est habillée en jean, sa journée va être déjà pénible. Donc, ouf, quel soulagement que toute la société s'empare de ce sujet.
On va écouter ce qu'en disait Laura Adler, qui elle aussi est une féministe et qui écrit régulièrement sur les femmes. Elle était, il y a quelques jours, l'invitée de Léa Salamé à 7h50 sur France Inter.
Il est en train de se passer quelque chose d'important. Faut pas que ça soit la une des journaux. Aujourd'hui, hier, demain. Faut que ça soit un problème politique. Macron l'a dit avant-hier à la télévision. Il y a accordé 3 minutes. J'espère que ça va devenir un problème essentiel du gouvernement.
Ça va devenir une loi. Est-ce qu'il faut harceler, il faut punir plus fortement les harceleurs dans la rue?
Il ne faut pas seulement punir, il ne faut pas une justice. Il ne faut pas employer des mots comme punition. Il faut employer des mots comme civilisation, comme reconnaissance de nos droits, comme possibilité pour ces hommes qui ont été élevés dans la culture machiste, qui considèrent que les femmes ne sont que des trous, qu'elles sont réduites à leur sexe uniquement, et bien que ces hommes considèrent que nous, les femmes, et bien nous sommes leurs égales, nous sommes même leurs supérieurs.
Une réaction, Marie Dariussec, ça vous fait sourire?
J'aime sa fougue. C'est des problèmes très concrets. Enfin, je reviens sur le harcèlement de rue qui me semble quelque part un peu la clé de tout, parce que c'est la place de la femme dans l'espace public. C'est-à-dire, on apprend aux petites filles que l'espace public n'est pas entièrement à elles. Et on a une façon de marcher dans la rue qui est réservée, on a une prudence dans la rue, on a une attitude corporelle dans la rue. Il y a cette idée du péage à filles. Quand vous montez un escalator, par exemple, un escalier mécanique, ou que vous traversez une rue un peu étroite et qu'il y a une bande de garçons au bout, et que vous avez 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous savez que vous allez passer un péage, et que le coût, ça va être au minimum des réflexions, et au pire des attouchements, et au pire du pire, on ne veut pas même pas imaginer. Mais donc l'espace public est très problématique pour les jeunes filles en particulier. Donc ça, il faut que ça change, parce que la ville est à tout le monde. Voilà.
Et comment ça peut changer?
Effectivement, c'est politique. Je suis d'accord là-dessus complètement avec Laura Adler. Il faut des lois, il faut que ce soit un délit, il faut qu'on puisse porter plainte. Il faut surtout que les hommes se rendent compte par ce biais-là. Je veux dire, on verbalise les gens qui vont trop vite sur la route. Eh ben, il faut verbaliser les hommes qui sifflent les femmes. Parce qu'on n'est ni des chiens, ni on n'a rien demandé. Il y a une très grande différence entre le flirt, la séduction. Mademoiselle, est-ce que vous voulez prendre un café? À partir du moment où on dit non, il faut respecter ce non. C'est toujours pareil. Et à partir de l'insistance, ça devient pénible.
Stay late and finish the wine in your luxury basement. They swing in velvet and pearls and like to debate Pollock and Klein, Ginsburg and Corso, with a slight foreign accent. You drip the paint from a can, and abundantly blush an invisible sun. But instead of a brush, you wish you had a gun. If they leave you alone with your misery, deep in the fire of your fame, you'll be begging them blind. Give me love, give me love of every kind. All the beautiful girls, they wanna stay late. They never complain as they lean on my back. They walk in with fancy hellos to greet the unknown and redecorate my secondhand wardrobe with a fashionable smack. I sip the rest of the wine while I hear them repeat what upsets me the most, that instead of a man I married a ghost. If I leave you alone with your misery, deep in the fire of your fame, you'll be begging.
Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Kerenan, All the Beautiful Girls. Il s'agit de vos invités et de vous-même.
Absolument, c'est un portrait.
C'est un portrait. Kerenan, vous avez envie, vous, d'écrire des chansons ?
Ça m'est arrivé une fois pour Lio. Alors, ça n'a pas eu le succès qu'on espérait, mais c'est très difficile d'écrire une bonne chanson. J'admire beaucoup les gens qui savent comme ça, dans un texte court, évoquer tout un univers. Enfin, moi, j'ai besoin de l'amplitude du roman.
Moi, j'écris, d'abord, je prononce chaque mot. Et alors, j'écris, le rythme joue un rôle d'une importance capitale dans ce que j'écris. Chaque rythme de la phrase, la sonorité de chaque mot, des mots. C'est pour ça que je le dis en l'écrivant. Et mes textes, souvent, rendent mieux à la lecture à haute voix que quand on les lit. Je me demande comment les lecteurs les lisent. Je voudrais qu'ils les lisent comme moi, je les lis. Ben, en attachant une importance très très grande au rythme, aux coupures, aux suspensions, au souffle de la phrase, à l'espace qui sépare les différents morceaux. Ça joue un rôle capital pour moi. Si le lecteur n'en tenait pas compte, ben je crois que presque tout ce que je veux faire disparaîtrait. Il faut qu'il soit porté justement par cette espèce de mouvement de rythme.
Nathalie Sarraute, vous avez reconnu sa voix, Marie Dariussecq, une voix peut-être qui vous manque parce que vous l'avez connue.
Oui, oui, j'ai eu la chance de la connaître les 5 dernières années de sa vie. Elle est morte à presque 100 ans, comme vous savez. Et elle avait cette voix très, très singulière. Je n'ai jamais rencontré d'écrivain ou d'écrivaine dont la voix soit si déjà exactement sa propre écriture.
Il y a quelque chose de très musical.
Oui, et puis le rythme, la grande précision de son articulation, cet accent, à la fois bourgeois et je ne sais pas, atemporel. Enfin, une façon de dire le français. Elle était d'une élégance. Duras n'avait pas cette élégance. Duras, c'est complètement autre chose. C'était les deux grands totems de leur époque avec Simone de Beauvoir. Hein. Elle s'appréciait moyennement d'ailleurs. Enfin, elle m'a raconté foule d'anecdotes et de. C'était l'histoire de la littérature aussi, voilà, que je rencontrais. C'était très intimidant au début.
Et puis ses livres sont drôles aussi.
Elle était très drôle elle-même.
On oublie la part d'humour chez Sarraute.
Oui, et les pièces de théâtre pour un oui, pour un non, c'est très drôle. Enfin, c'est beaucoup plus explosif qu'on ne croit.
Alors, on a parlé littérature, on a entendu des plasticiennes, une musicienne, une auteure, compositeur, interprète, et puis en face de nous, une chanteuse, Jeanne Sarah Deledic. Pourquoi sa présence dans votre grand atelier, Marie Dariussecq ?
J'ai eu le besoin à un moment de savoir lire, parce que je lis souvent en public, j'aime beaucoup ça. Mais j'avais un vrai problème technique, c'est que je terminais mes lectures avec le feu aux joues.
Devant tout le public.
Et puis moi, ça m'embêtait, c'était désagréable. Et je me suis dit, mais ça doit pouvoir se résoudre ça. Et je suis allée voir Jeanne Sarah, et tu m'as appris à lire.
Oui, je lui ai appris à lire.
C'est-à-dire à respirer.
À respirer.
Ouais.
Ça me touche beaucoup la chose qu'on a entendue de Sarraute, parce qu'elle parle exactement de ce qu'on a cherché toutes les deux, de lire quelque chose que, en plus, toi, tu as écrit, et vraiment trouver son souffle dans la lecture pour que tout d'un coup, le texte passe et que ça soit facile, plaisant, agréable, avec sa voix et sa propre voix, sans trafiquer, sans être mal ou avoir le feu aux joues. Et voilà. Et moi,
et tu m'as dit de lire avec
sa voix.
Ma vraie voix.
Sans chercher d'effet, même si tu t'en rendais pas compte de comment on parle ou en public, quand on est émotionné.
Vous preniez quel type de voix, Marie Dariussecq ?
En fait, je prenais sans m'en rendre compte une voix trop grave. Parce que, parce que quand on parle gravement, on est plus pris au sérieux.
Voilà. C'est super. Et puis quand on est une voix là.
Et oui, dès le premier cours, en fait. Je me suis rendu compte combien j'étais mieux dans ma voix pour lire. Voilà, que c'était pas la peine de lire autrement.
Et les joues n'étaient plus rouges à la fin ?
Ah, mais vraiment, ça va respirer par le ventre.
Enfin, non, mais
ça,
quand
vous connaissez ça, vous êtes un homme de radio.
Oui, oui, c'est vrai, on nous apprend ça aussi.
Voilà, c'est si simple et si agréable.
Et vous, Jeanne Sarah Deledic, quand vous l'a appris, quand vous avez pris des cours de chant, puisque vous êtes professionnelle. Hein.
Oui, et en fait, parce que moi, je continue en fait, à chercher. J'enseigne avec aux comédiens à Cannes et à Marseille, à l'ERAC. Et puis, parce que moi, je cherche ça, j'aime ça. Comment tout ça évolue, que ça soit le plus plaisant et le plus agréable quand on chante ou quand on parle, et que ça soit facile.
Jeanne Sarah Deledic, je ne vais pas vous demander de chanter, sauf si vous en avez envie.
Non, ça va aller.
Je me doute que ça, c'est un vrai travail d'échauffement et que ça se prépare. En revanche, je veux bien que vous donniez à Marie Dariussecq quelques conseils sur une lecture.
Très volontiers.
J'ai demandé à Marie de venir avec un texte. Je ne sais pas ce que vous avez pris avec vous.
Alors c'est drôle, c'est la correspondance de Flaubert, qui est mon livre de chevet. J'ai ouvert au hasard, je vous promets. Quant à l'amour, je n'ai jamais trouvé dans ce suprême bonheur que trouble, orage et désespoir. La femme me semble une chose impossible. Et plus je l'étudie, et moins je la comprends. Je m'en suis toujours écartée le plus que j'ai pu. C'est un abîme qui attire et qui me fait peur. Comment tu lirais ça, toi ?
Les conseils de la professionnelle.
Non, mais c'est pas mal du tout, en fait. Par exemple, si tu baissais juste tes épaules.
Oui.
Et juste, tu prends ton temps pour respirer. La première phrase, juste tu la penses, juste, c'est une inspire, et hop, t'y vas.
Quant à l'amour, je n'ai jamais trouvé dans ce suprême bonheur que trouble, orage et désespoir.
Et ouvre ta bouche pour respirer.
Ah, ouais, oui, non. D'accord, oui, c'est vrai. Tu me dis souvent ça, j'oublie. Elle m'a aussi appris à prendre mon temps. Et elle m'a promis, Jeanne Sarah, que le public m'attendrait.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fallait que je le lise, que je lise à mon rythme. Et que rien, peut-être, n'est plus stressant que quelqu'un qui est pressé de lire. Quelqu'un qui, effectivement...
Il faut se faire confiance et faire confiance au public.
Oui, vous voyez, quand quelqu'un arrive sur scène et juste l'inspire. L'inspire, c'est le moment où il va se passer quelque chose. Si on prend le temps d'inspirer... Vous créez une attention. Et on vous attend, en fait.
C'est comme en radio, respecter les silences.
Et le silence fait partie de la musique.
Eh bien, on va laisser terminer la lecture, voir si l'élève Dariussecq a compris.
la femme me semble une chose impossible, et plus je l'étudie, et moins je la comprends. Je m'en suis toujours écartée le plus que j'ai pu. C'est un abîme qui attire et qui me fait peur.
C'est joli, non ?
Eh oui, c'est joli.
Pauvre Flaubert, il n'était pas doux avec les femmes.
Bah non.
Mais ça a fait des romans formidables. Bah,
les correspondances de Flaubert que vous avez là sous les yeux, un gros bouquin en folio, absolument indispensable. D'ailleurs, ça s'appelle « Correspondance au singulier hein. ».
Oui, c'est vrai. Mm-hmm.
Et vous nous le conseillez.
Ah bah oui, oui, bien sûr. C'est... Moi, c'est ma Bible à moi, oui.
Merci Jeanne-Sarah Deledic de ce cours en direct. On Merci. A apprécié Marie Darrieussecq.
Merci,
Marie. Encore mieux lire maintenant quand elle ira devant son public. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme actualité ? Profitez-en.
Eh bien, là, en fait, je suis en train d'écrire un spectacle musical, poétique, autour des poètes du début du siècle anglais, du 19e, Byron, Mary Shelley.
Bon, alors à bientôt. Voilà. Merci, Merci Marie Darrieussecq de toutes ces rencontres majoritairement féminines.
Oui. J'y ai pas pensé consciemment, ça s'est fait comme ça.
Et écrivez bien ce fameux roman qu'on attend,
oui.
Et qui bloque un peu sur non pas les migrants, non pas les réfugiés, mais les exilés. J'ai bien retenu.
Merci beaucoup.